Je pense que pour les habitués de la lecture de la parole, si je vous parle d'un Corinthiens 13, de suite, vous allez me dire ce que c'est. Le thème, c'est l'amour, bien sûr. Voilà. Ce week-end dernier, j'étais à un mariage, donc c'est pour ça que j'étais absent. Donc j'étais à un mariage et ce verset, enfin ce chapitre même, il a été encore une fois cité. Ce chapitre qui est de nombreuses fois cité pour. À l'occasion des mariages, parce que c'est vrai que ce texte, il est riche, il est beau, il nous parle de toutes les caractéristiques de l'amour, du véritable amour. Et ce soir, j'avais à cœur d'aborder ce chapitre, mais non pas dans une façon d'aborder tous les points de l'amour, mais de nous appuyer juste sur un point essentiel, et ce que Paul dira, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et c'est seulement là, sur ce point-là, que je voudrais là qu'on puisse s'attarder ce soir. Alors, sans plus attendre, on va lire ensemble le chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13. Alors, moi, je vais le lire dans une version de Second 21, Louis Second 21. Alors, elle ne sera pas affichée, ce sera un petit peu différent, mais voilà, vous pourrez quand même suivre. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'amour, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. L'amour. Si on revient un tout petit peu en arrière, au chapitre 12, Paul va ici enseigner les Corinthiens au sujet des dons spirituels. Si vous connaissez donc ce chapitre, il va leur parler là donc des dons spirituels. Il va les reprendre en fait finalement de ce qu'ils pratiquaient déjà en fait les dons spirituels. L'Église de Corinthe pratiquait les dons spirituels, mais voilà, ils n'utilisaient pas de façon à plaire à Dieu, de façon à glorifier Dieu. En fait, ils étaient un petit peu égoïstes. Ils cherchaient plutôt à se glorifier eux-mêmes plutôt qu'à glorifier Dieu. Et donc, Paul voulait les corriger, voulait les enseigner, voulait les rediriger afin de leur montrer la diversité des dons et leur utilité. Alors, Paul va prendre, si vous vous souvenez, dans le chapitre 12, les images du corps humain. Nous, en tant que croyants, nous faisons partie du corps de Christ. Et donc, comme un corps, nous avons diversité, nous sommes diversité de dons, il y a diversité de dons. Le corps humain dispose de divers membres, mais tous forment un seul corps. Nous sommes tous le corps de Christ, comme on dit. Et c'est Dieu qui place chacun de ses membres selon sa volonté et distribue les dons selon son esprit. Ce n'est pas à nous de décider, mais c'est Dieu qui distribue selon sa volonté. Et dans un but, dans quel but? D'encourager et d'édifier le corps de Christ. Amen. Et la Bible nous dit que si un membre du corps souffre, eh bien c'est l'Église, le corps entier qui souffre avec lui. Et si un membre se réjouit, eh bien c'est l'Église entière qui se réjouit avec lui. Et Paul va aborder un point très important dans ce chapitre 13. À la fin du chapitre 12, il y a le verset 1 Corinthiens 12, 31 qu'on pourra afficher. Donc il encourage l'église de Corinthe à aspirer aux dons les meilleurs. Et il va dire, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et cette voie par excellence, c'est la voie de l'amour. Amen. Paul veut leur montrer que, oui, c'est bien ce que vous faites, vous pratiquez les dons, c'est bien, vous avez suivi mes enseignements, mais là, je vais vous montrer une voie encore plus excellente, la voie de l'amour. Et donc, l'apôtre va commencer dans ce que nous avons lu. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On pourrait, c'est vrai, recevoir peut-être des révélations extraordinaires. On pourrait avoir une foi jusqu'à même transporter des montagnes, comme ce texte nous dit, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. C'est difficile quand même d'entendre cela. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Vous savez, on peut parfois avoir des dons de prophétie. On peut même donner des prophéties dans l'Église parfois, mais si nous ne manifestons pas l'amour de Dieu, eh bien, cela peut avoir l'effet inverse. Parfois, ça peut, au lieu d'encourager, au lieu d'édifier, ben, ça peut avoir cet effet inverse. Si nous utilisons les dons de Dieu à notre propre avantage, plutôt qu'à chercher à édifier le corps de Christ, l'édifier l'Église, finalement, ces dons ne sont d'aucune utilité. C'est-à-dire que finalement, nous qui les avons, ben, nous ne sommes rien. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne sommes d'aucune utilité pour le corps de Christ. Nous devons rechercher, nous devons, oui, aspirer aux dons de prophétie, nous devons aspirer aux dons les meilleurs, mais nous devons rechercher surtout l'amour. Nous devons manifester l'amour. Et c'est ce que Paul encourage aux Corinthiens, et je crois que cette parole est encore vraie pour nous encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous croyez que nous devons rechercher encore cela? Nous devons rechercher cette voie par excellence, rechercher l'amour de Dieu. Et Paul dira même un petit peu plus loin, « Mais si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre même mon corps aux flammes et que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » C'est vrai, on pourrait faire tant de choses, on pourrait faire des œuvres sociales, on pourrait faire tant d'œuvres pour l'Église, et toutes ces choses-là sont bonnes. Mais si nous n'avons pas l'amour, à quoi servent ces choses? Quelles sont nos motivations? Est-ce que nous faisons ces choses-là pour peut-être être vus, peut-être gagner de l'admiration des hommes, peut-être du pasteur aussi? Est-ce que nous faisons ces choses-là, mais par amour, tout simplement? Ou est-ce que nous cherchons peut-être à attirer un regard, à avoir une peut-être quelconque admiration? Jésus, on va lire ensemble, dira dans Matthieu 6, au verset 2, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Jésus dénonce là les hypocrites qui font tout pour rechercher la gloire des hommes. Il nous est dit que ces hypocrites, ils sonnaient la trompette, là, dès qu'ils donnaient l'aumône, hop, ils sonnaient la trompette pour être vus des hommes. Et il nous est dit qu'en vérité, ils recevaient leur récompense, c'est-à-dire les admirations qu'ils recherchaient. Ils recherchaient la gloire des hommes. Si on revient à l'origine du mot hypocrite en grec, c'est le mot hypocrites. Alors ça se ressemble, c'est le mot hypocrites. Et en fait, ce mot, il désignait un acteur, un joueur de théâtre. En fait, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle qui n'est pas. C'est quelqu'un qui va mettre une apparence, qui va montrer une autre façade de ce qu'il est réellement. Il va peut-être montrer quelqu'un, ah oui, qui paraît être bien, quelqu'un qui paraît faire de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu, mais au fond de lui, quelles sont ses motivations? Il a comme un masque devant lui et c'est là finalement ce que représente l'hypocrite. C'est là ce que représente, ce que dénonce Jésus. Il dénonce là les hypocrites, ceux qui ont un masque, ceux qui jouent un rôle, mais qui n'ont pas ce cœur, qui n'ont pas cette réelle motivation, cet amour profond. Et la Bible nous dit que eux, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est-à-dire que nous ne devons pas faire les choses de façon à être vus. Mais Dieu, notre Père, nous dit qu'il nous voit dans le secret et nous le rendra. Amen. Dieu nous le rendra. Et c'est vrai, nous pouvons faire tant d'œuvres pour Dieu. Nous pouvons faire tellement de choses. Mais si nous n'avons pas l'amour, à quoi servent toutes ces choses? Alors ce n'est pas par nos propres capacités que nous pourrons aimer comme Dieu aime, vous le savez. On peut faire tant d'efforts, mais le véritable amour, celui qui vient de Dieu, eh bien nous avons besoin de Dieu pour le manifester. Nous pouvons manifester l'amour. Nous pouvons, oui, faire tant d'efforts pour peut-être manifester, mais un jour ou l'autre, ça se ressentira. Le véritable amour nous vient de Dieu. Et sans cet amour véritable, nous pourrons aimer les gens autour de nous. Oui, aimer les gens aimables, c'est facile. Aimer les gens qui sont un peu moins agréables, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous laisser envahir de l'amour de Jésus-Christ. Amen. L'amour est l'identité même de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu, il est amour. Il n'a pas cherché à atteindre un amour. En fait, il est amour. Son amour est éternel. Son amour n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La Bible nous dit que son amour ne change pas. Exode 34, versets 6 et 7, on pourrait l'afficher. Exode 34, 6 et 7. Alors, je me suis trompé, non ? Ah non, alors sa deuxième, voilà, c'est ça. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Amen. Depuis toute éternité, Dieu est amour. Son amour ne change pas. Il n'existe aucun amour véritable qui ne trouve sa source en Dieu. Le véritable amour dans la Bible, l'amour tel que nous le trouvons dans 1 Corinthiens 13, la description de l'amour, en grec, c'est l'amour agapé. Vous avez certainement entendu déjà parler de cet amour. Nous, en français, on dit « oui, j'aime mon frère, j'aime mon père, j'aime mon épouse et j'aime les pâtes ». Vous voyez, c'est un peu, on n'a pas cette différence de degré, mais là, dans la richesse du grec, c'est qu'il y a une différence de degré dans l'amour. Et l'amour agapé, c'est l'amour le plus haut degré décrit dans l'amour. C'est un amour qui est un amour désintéressé. C'est un amour une forme d'amour qui est rare, qui est élevé et qui finalement qui voit dans l'être aimé comme quelque chose de précieux. Dieu nous voit comme des hommes et des femmes précieux. Nous sommes infiniment précieux à ses yeux. Et c'est de cet amour que Dieu nous regarde. Et la Bible nous dit qu'il nous a tant aimés d'un amour, de cet amour agapé, qu'il nous a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient aient la vie éternelle. Vous connaissez ce verset de Jean 3, 16. Et la Bible nous dit que Dieu, il a démontré son amour, il nous a prouvé son amour envers nous. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu que Dieu nous a prouvé son amour, mais alors que nous étions des pécheurs, encore des pécheurs, Dieu nous a prouvé son amour. Amen. N'est-ce pas merveilleux Dieu et ce Dieu plein d'amour? La Bible nous dit que nous étions loin d'être aimables, nous étions ennemis de Dieu, mais Dieu nous a manifesté son amour. Il nous a offert son propre Fils afin d'être réconciliés avec lui, afin que nous puissions retrouver la vie véritable. Oui, nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 2, 4 nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. » N'est-ce pas merveilleux de constater, de voir combien Dieu, qui nous a aimés, nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous aime d'un amour qui dépasse tout notre entendement. Et peut-être que ce soir, tu ne te sens pas aimé. Peut-être que dans ton entourage, tu ressens peut-être comme quelque chose qui... tu te sens comme intrus, peut-être, dans ta famille et tu as l'impression de ne pas être aimé, mais sache que Dieu t'aime. Aux yeux de Dieu, tu es précieux à ses yeux. Il t'aime de cet amour agapé. Tu as de la valeur à ses yeux. Et qu'est-ce que Dieu attend en retour? Dieu nous dit dans sa Bible que ses commandements, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est là ce que Dieu attend de nous. C'est là le premier commandement, que nous puissions l'aimer. Et Jésus dira, mais le second commandement qui lui est semblable, Matthieu 22, 39, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Difficile d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande, oui, de l'aimer, de le mettre à la première place, de l'aimer de tout notre cœur, mais aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 5, 44, voilà une parole qui est peut-être encore plus difficile à entendre, mais c'est pourtant ce que Dieu nous demande. Jésus va encore plus loin, il nous dit, mais aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici des paroles qui sont difficiles. Il est facile, oui, d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur, d'aimer nos parents, nos proches, notre épouse, notre mari, mais aimer nos ennemis. Aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous font du mal. Quelque chose de difficile. Nous avons besoin de l'amour de Dieu pour les aimer. Nous avons besoin de cet amour de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, mais demeurez dans mon amour. Nous avons besoin de demeurer dans l'amour de Christ afin de le manifester. Oui, ce n'est pas l'amour, notre propre amour charnel que pourrons donner, que nous pourrons offrir aux hommes, mais c'est l'amour de Dieu. Si nous avons l'amour de Dieu, si nous demeurons dans cet amour, nous pourrons l'aimer, même ceux qui nous persécutent, aimer ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous haïssent. Peut-être dans ton travail, tu sens comme peut-être quelque chose, peut-être les gens ne t'apprécient pas, peut-être qu'il y a, peut-être même les gens t'insultent peut-être. Et au fond de toi, c'est difficile de les aimer, mais demande à Dieu. Demande à Dieu de t'aider afin que tu puisses manifester cet amour. Oui, nous avons besoin de nous attacher à Dieu afin de manifester son amour, de demeurer dans son amour. Jean 13, 35 dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors bien sûr, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et si peut-être ce soir, vous n'avez pas encore fait cette démarche, que vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu le Père, eh bien, je vous invite à le faire. Je vous invite à vous approcher de Dieu avec cette attitude d'humilité, cette attitude de repentance. Parce que oui, si tu veux aimer comme Dieu aime, tu as besoin de recevoir d'abord l'amour dans ton cœur. Tu as besoin de recevoir l'amour de Christ si tu veux aimer comme Dieu aime. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas encore reçu. 1 Jean 4, 7. Alors, il y a beaucoup de versets ce soir, mais c'est bon, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé, Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Amen. Nous avons besoin, nous avons tellement besoin de l'amour de Dieu. L'amour est la manifestation du fruit de l'Esprit. Si je vous parle du fruit de l'Esprit, pour ceux qui connaissent bien la Bible, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que entre ce que nous avons lu, la définition de l'amour en Corinthiens 13 et la définition du fruit d'esprit, il y a comme des similitudes. L'amour est une manifestation du fruit de l'esprit. Mais alors comment produire ce fruit? Comment rechercher à produire le fruit de l'esprit? Alors certaines personnes disent qu'il y a plusieurs fruits, mais non, il n'y a qu'un seul fruit, c'est le fruit de l'esprit. Alors comment le manifester? Alors ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est en demeurant en Jésus-Christ, en gardant cette communion avec le Seigneur que nous pourrons produire ce fruit. Jésus a dit à ses disciples que je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Nous avons besoin, comme le sarment a besoin de recevoir la sève du cep, nous avons besoin de demeurer et de rester attachés à Jésus afin de recevoir la vie, afin de recevoir son amour, sa vie, son esprit, afin de pouvoir la manifester, ce fruit, manifester son amour, que nous puissions là garder les yeux fixés dans le Seigneur, que nous puissions rester dans sa présence, demeurer avec lui, rechercher sa face, passer du temps dans la prière afin d'être transformé par son esprit, de là ainsi manifester le fruit de l'esprit. Si vous avez envie de manifester l'amour de Dieu, de manifester le fruit de l'esprit, eh bien passer du temps dans la présence, rechercher la face de Dieu et garder les yeux fixés sur lui, obéissez à sa parole et demeurez en lui. Et la Bible nous dit que nous tendrons à sa ressemblance de gloire en gloire. Amen. Manifester les fruits de l'esprit, c'est aussi crucifier notre chair. Et je vais bientôt finir. Et là, dans Galates 5, il nous est dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous avons donné notre vie à Christ, eh bien nous avons aussi cloué à la croix notre vieille nature. Nous avons mis à mort notre vieille nature avec toutes ces mauvaises tendances et ces mauvais désirs. Et Paul dit à Romains 6:6, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Nous devons ainsi considérer notre vieille nature comme morte et veiller à ce qu'elle ne puisse pas ressurgir. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Amen. Ne marchons pas selon la chair, mais marchons selon l'Esprit. Je vais conclure, je ne vais pas être trop long. Et oui, l'église de Corinthe n'était pas parfaite, loin de là. Les Corinthiens, ils étaient impatients, égoïstes, envieux, etc. Ils ont encore plein d'autres qualités comme celle-ci. Et c'est pour ça que Paul va opposer leur attitude avec les qualités du véritable amour. Comme nous l'avons lu, l'amour, il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt égoïstement, mais il va s'intéresser plutôt aux autres, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, il espère tout, et l'amour supporte tout avec persévérance. Amen. Paul disait, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous avons tellement besoin de l'amour, frères et sœurs. On a besoin de l'amour de Dieu dans nos vies afin que nous puissions la manifester autour de nous. Sans cet amour, Paul dit que nous sommes finalement comme des cymbales qui retentissent. Nous avons besoin de demeurer, passer du temps dans sa présence, qui puisse nous remplir et que nous puissions avoir ce même amour, même pour ceux qui peut-être ça nous semble difficile d'aimer, peut-être qu'il y a des personnes dans ton entourage que tu n'arrives pas à pardonner parce que tu dis non, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, je ne peux pas pardonner cette personne. Cette personne m'a fait trop de mal, cette personne m'a fait souffrir. Je ne peux pas le pardonner. Humainement, c'est vrai, c'est impossible. Mais Dieu est capable. Dieu est capable de te donner la force d'aimer cette personne. Dieu, il est capable de te donner la force de pardonner afin que tu puisses l'être libéré de ce fardeau et que tu puisses l'avancer avec lui. Amen. Je vais terminer juste avec ce verset, Jude 1, 21. Ce verset qui nous dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, merci encore pour ton immense amour, pour cet amour manifesté à la croix. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions. C'est vrai, nous étions comme ennemis de Dieu. Nous n'étions pas aimables, mais toi, tu nous as regardé d'un amour immense. Tu nous as aimés et tu nous as offert cette pleine liberté en Jésus-Christ. Merci, parce que maintenant, nous pouvons avoir cette relation avec le Père. Ce voile a été déchiré et nous pouvons la rentrer dans ta sainte présence. Merci, oui, pour cet amour, Seigneur, que tu nous donnes, pour cet amour que nous pouvons la manifester aussi en nous, Seigneur. Aide-nous, oui, à ne plus marcher selon la chair, mais à manifester le fruit de l'Esprit, à marcher selon l'Esprit. Seigneur, renouvelle chacun d'entre nous, aide-nous à marcher et à manifester cet amour autour de nous. Viens nous renouveler encore, viens nous faire du bien encore ce soir, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, c'est vrai. Et nous voulons, Seigneur, te demander encore que tu puisses nous remplir encore à nouveau, nous remplir de ton amour, Seigneur Jésus. Merci encore. Sois glorifié, honoré, Seigneur. Amen.